Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Nos Mémoires. Soutenez-nous, nous entamons notre troisième année d'existence déjà, mais la radio ne pourra vivre qu'à partir du moment où vous nous aiderez. Il y a des personnes à payer, des monteurs, des webmasters, donc je compte sur vous, toute l'équipe de Storia Voce compte sur vous pour ce faire. N'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique Soutenez-nous de notre site internet, la page d'accueil de notre site internet Storia Voce. Nous avons célébré, commémoré il y a un an l'anniversaire de la révolution russe de 1917 et les années se suivent. Nous sommes en 2018 et il y a un peu plus de 100 ans, le tsar Nicolas II était assassiné, lui et sa famille, dans la fameuse maison Ipatiev de la ville d'Ekaterinbourg en Russie. Jean-Christophe Buisson, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que je vous reçois à ce micro. Je parlais de 1917. Vous avez publié chez Perrin un ouvrage qui relate cette année sans pareil. Il y a bien d'autres émissions et je renvoie nos auditeurs à nos archives sur 1917. Et vous venez, deux ouvrages viennent d'être publiés sur ce fait très important qu'est l'assassinat donc de la famille impériale. Tout d'abord, un ouvrage que vous avez donc dirigé, vous en avez dirigé la publication, le journal intime de Nicolas II, décembre 1916, juillet 1918. Nous allons voir pourquoi ces dates sont importantes. Donc, les derniers jours du dernier tsar et un autre, publié chez Perrin, pardon, et un autre livre publié aux éditions des Sirtes. Ils ont tué le tsar de Nicolas Ross. Il s'agit de la publication, ni plus ni moins que des témoignages des bourreaux. Nicolas Ross étant docteur en histoire et spécialiste de l'histoire russe. Vous-même, Jean-Christophe, vous travaillez pour Le Figaro, vous êtes un spécialiste des mondes slaves, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous a amené, Jean-Christophe, à publier ce journal intime de Nicolas II ?
Oh ben, je crois que ça va un petit peu dans la continuité effectivement des travaux que j'essaye de poursuivre depuis une vingtaine d'années sur le monde slave, notamment la Serbie et la Russie. Et effectivement, lorsqu'on travaille, comme je l'ai fait l'année dernière, enfin il y a plusieurs années, sur la révolution russe, sur cette année 1917 en Russie, qui a été un événement considérable, et bien entendu, on va dans la continuité et on se demande ce qui se passe dans les mois suivant l'instauration du régime soviétique en Russie, et on tombe évidemment sur cet événement crucial dans l'histoire de la Russie, mais aussi dans l'histoire du monde, qui nous parle tout particulièrement nous autres Français, parce que évidemment il renvoie à ce que nous avons fait nous-mêmes à Louis XVI en 1793, en considérant en tout cas ceux qui avaient pris le pouvoir, les révolutionnaires, qu'il fallait se débarrasser du symbole de l'ancien régime. Et la démarche suivie par Lénine et Trotsky et Sverdlov, qui sont à l'origine de l'assassinat du tsar, de Nicolas II, eh bien, est vraiment dictée par cette fascination, cette admiration qu'ils ont pour la Révolution française, avec l'idée qu'il faut faire encore plus, aller plus loin et ne parvenir au sommet du pouvoir qu'en allant plus loin dans la terreur, plus loin dans la violence que l'ont fait les révolutionnaires. Lénine et Trotsky se disent que si la révolution française a finalement échoué, puisque le pouvoir a échu à un dictateur, Napoléon Bonaparte, à son issue, c'est parce qu'on n'était pas allé assez loin. Et donc le minimum, c'est de se débarrasser de ce que Lénine appelle le drapeau vivant de l'ancien régime, à savoir Nicolas II. Donc Nicolas II, après avoir été arrêté, puis mis interné dans son palais de Tsarskoïe Selo, est envoyé une première fois en Sibérie, puis Ekaterinbourg, et un jour Lénine décide qu'il faut s'en débarrasser. C'est cette nuit du 16 au 17 juillet où, avec toute sa famille, il est froidement exécuté par des tchéquistes, en fait, des bolcheviks, qui ont eu ordre de Moscou, même si on n'a pas la trace écrite, il est évident qu'il y a eu un ordre de Moscou d'exécuter toute la famille et même leur petit chien présent dans cette maison Ipatiev d'Ekaterinbourg.
Alors nous allons revenir bien évidemment sur cette fameuse nuit. Je dis pour nos auditeurs donc que ce journal intime de Nicolas II, vous l'avez préfacé, vous l'avez annoté parce qu'il y a de nombreux personnages qui interviennent, et à la fin vous avez publié le texte Ekaterinbourg 17 juillet 1918 que vous avez écrit et qui est tiré d'un autre ouvrage. personnages qui racontent tout simplement les assassinats politiques qui ont eu lieu dans l'histoire. Et donc, vous avez travaillé, vous, sur cet assassinat du 17 juillet 1918. Le journal intime de Nicolas II, en tous les cas celui publié chez Perrin, ce n'est pas la première fois qu'il est publié. La première fois, il a été publié chez Payot, il faut dire cela, dans les années 30, mais il n'avait pas été réédité depuis, premièrement. Et deuxièmement, ce journal intime est un extrait. C'est-à-dire que Nicolas II commence son journal intime dès 1881.
Oui, à l'âge de... il est de 68, donc à l'âge de 23 ans, très immédiatement, il a tenu ce journal intime. 1880, c'est une date importante, parce que c'est la date de l'assassinat de Alexandre II, donc son grand-père. Et vous savez, il y a cette photo qui est très connue, où on voit, après l'attentat contre Alexandre II, qui n'est pas mort sur le coup, il est dans une pièce, et toute la famille vient, et on voit le futur Nicolas II en tenue de marin, c'est-à-dire la tenue qu'a son propre fils Alexis, le petit Tsarevitch, en 1918, qui assiste à l'agonie de son grand-père, qui est vraiment frappé et impressionné par cet événement. Et donc, à partir de cette date, il tient un journal intime, qu'il tient donc jusqu'à 3 jours avant son exécution. Ça représente des milliers et des milliers de pages. On a décidé avec les éditions Perrin de ne garder que la période qui va de décembre 1916, c'est-à-dire le lendemain de la mort de Rasputin, jusqu'à effectivement les 3 jours précédant son exécution. Pour une raison très simple, c'est que c'est un témoignage resserré, très très poignant, parce que nous on connaît l'issue, donc on voit cette sorte de montée au Golgotha de Nicolas II. Et puis le début de la Première Guerre mondiale est moyennement intéressant, parce qu'il vraiment il évoque les opérations militaires, donc ça m'a paru moins sujet à intérêt. Et donc on a gardé cette période qui correspond à peu près à 500 jours, de décembre 1916 à juillet 1918. Et effectivement, les éditions Payot l'avaient publié. C'est un cahier qui a été retrouvé par les bolcheviks lorsqu'ils ont repris la ville d'Ekaterinbourg au blanc, qui a été emmené à Moscou. Ça se trouve encore dans les archives du Kremlin aujourd'hui, donc c'est consultable aux archives du Kremlin dans son intégralité. Et ça a été publié en Russie dans les années 20, donc à l'époque de l'Union soviétique, sans doute parce qu'on estimait que ça montrait un visage de Nicolas II qui paraissait intéressant au pouvoir soviétique, en cela qu'il ne démontre pas l'autorité, le charisme d'un homme d'État exceptionnel, c'est le moins qu'on puisse dire. Et des Blancs l'ont récupéré, l'ont fait publier en France, donc dans les années 30, mais sans appareil critique. C'est pour ça que ça nous paraît assez essentiel, même pour la recherche historique, de le republier en précisant bien qui est qui à chaque fois qu'il rencontre des gens qui sont d'anciens ministres ou des compagnons d'infortune ou d'exil. Et même sa manière de décrire les événements, l'idée c'était toujours le remettre en perspective en disant ce jour-là il y a la révolution à Petrograd et lui il est en train de consulter le ciel pour savoir s'il va faire beau aujourd'hui. Ça dit quelque chose de son caractère.
Alors le tsar parle le français, il parle l'anglais, l'allemand. Le texte est rédigé en quelle langue?
En russe, mais avec de temps en temps des petites annotations de Alexandra, donc de son épouse, et parfois en anglais d'ailleurs. Curieusement, parce qu'il parlait Alexandra, donc la tsarine, était d'origine allemande, comme on le sait. Son cousin n'était autre que le roi d'Angleterre, George V. Et dans les grandes familles aristocratiques russes, comme la sienne, mais par définition, c'était assez chic de parler anglais. Leur surnom, c'était Nicky, Sonny, ils donnaient des petits surnoms comme ça en anglais. Donc Alexandra fait des annotations parfois en anglais, mais le journal est rédigé en russe.
Alors, vous le disiez à l'instant, ce travail, il peut être bien utile, bien évidemment, pour les historiens, mais aussi pour les météorologues, parce que on est surpris de voir que quasiment tous les jours, que Dieu fait, eh bien, il donne l'état du temps, l'état de même du nombre de degrés en dessous de zéro, au-dessus de zéro.
Oui, il y a une forme de... C'est très étonnant. C'est pour ça que c'est un document passionnant pour ça, en ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. En ce qu'il dit du caractère, du tempérament de Nicolas II, qui ne fait que confirmer ce qu'on sait par son attitude depuis qu'il est monté sur le trône quelques années avant le début du XXe siècle. à savoir que c'est quelqu'un qui n'était pas fait pour régner, et qui redoutait le moment où il allait devoir régner, qui était élevé à la dure par son père, alors que lui a un tempérament plutôt doux, plutôt timide, plutôt réservé. Il déteste couper la parole à quelqu'un, il déteste les conversations qui s'éternisent. C'est quelqu'un de très introverti, et effectivement, sa conception du pouvoir... qui est le pouvoir dont il hérite est celui d'un homme tout puissant qui est presque une incarnation de Dieu sur terre. Donc il a un pouvoir extrême, mais il ne veut pas en faire usage. Il considère que c'est au gouvernement, quel qu'il soit, de gérer les affaires courantes. Lui, il est là pour incarner l'histoire, la tradition, la culture russe depuis que son ancêtre Michel Romanov est monté sur le trône au XVIIe siècle, pas plus. Et là, il se retrouve plongé dans la révolution, plongé dans des événements où il faut prendre des décisions rapides, fermes, définitives. Il en est incapable. Il s'en montre incapable. Et lorsqu'il est contraint d'abdiquer, on note dans son journal une forme de soulagement. C'est « Ah, enfin, je vais pouvoir me consacrer à des choses banales qui m'intéressent », c'est-à-dire effectivement faire du jardinage, couper du bois, en l'occurrence, ça a une utilité, c'est de faire du feu dans le palais pour l'hiver, jouer avec les enfants, s'occuper des enfants, s'occuper de sa famille, aller à la liturgie, et effectivement constater le temps qui passe, les fleurs qui poussent. Donc ce journal est une forme de banalité, de sécheresse.
Banalité bourgeoise presque.
Peut-être, oui absolument, il y a un côté comme ça. La seule réserve qu'on peut faire, c'est que je pense que Nicolas II craint que ce journal, n'oublions pas qu'il n'est absolument pas fait pour être publié. Donc il a le droit de dire des banalités, parce qu'il prétend pas faire un document pour l'histoire. Il décrit ce qu'il voit, ce qu'il entend. Pour lui, le principe du journal intime, c'est qu'il est intime. Donc il est pour moi. Donc si j'ai envie de dire qu'il fait 3 degrés dehors, ça n'intéresse que moi, je ne prétends pas que ce soit intéressant. Donc il faut se garder de toute ironie en ce qui concerne ce journal, parce qu'encore une fois, il n'est pas fait pour être publié. Et ensuite, je pense que Nicolas II craint que ses geôliers ne tombe sur ce journal. Et s'il tombe sur ce journal et qu'il voit des horreurs, ce qu'il pense vraiment de ces geôliers, notamment des bolcheviks à partir du moment où la révolution a eu lieu, il craint que ça puisse nuire et à lui et à sa famille. Il n'a pas du tout intégré l'idée que les gens qui l'ont fait prisonnier vont sûrement l'exécuter. Il est encore dans une idée que peut-être il va être libéré à un moment donné, envoyé en exil. Il se dit que ça serait quand même dommage que parce que dans mon journal je dis que mes geôliers sont des êtres malfaisants, que je sois puni, condamné pour cette raison. D'où cette banalité qu'on retrouve dans ce journal pour ces raisons-là, je pense.
D'ailleurs, il brûle plusieurs de ses papiers quand il est lors de son premier séjour à Tsarskoye Selo. Il brûle plusieurs de ses papiers juste après son abdication.
Oui, absolument. Donc il y avait peut-être des éléments notamment très critique sur son entourage. D'ailleurs, c'est un des moments où il se laisse un petit peu aller des confidences, où il sort un petit peu de ses gonds, ce qui est quand même rarissime. C'est lorsqu'il abdique en disant tout autour de moi n'est que lâcheté, fourberie et trahison. On sent que là, il s'est allé au-delà. Pourquoi ? Parce que les grands généraux, les grands politiques, les grands ministres qui l'entouraient, qui pour le coup était très fatigué par les décisions parfois incompréhensibles prises par Nicolas II et son épouse sous l'influence de Rasputin dans les premières années de la guerre, eh bien ces gens-là ne l'ont pas soutenu effectivement au moment où il est décisif, où il fallait prendre des décisions fermes et peut-être brutales contre la révolution, contre les émeutes en cours à Petrograd. Eux-mêmes ont considéré que, après tout, c'est peut-être Nicolas II qui n'allait pas. Il s'était mal comporté avec eux les précédentes années, puisque Nicolas II était capable de changer de premier ministre ou de ministre de l'Intérieur juste parce que Rasputin avait dit « celui-là est méchant contre moi », et que toute cette aristocratie, tous ces ministres en avaient assez de cette façon de gouverner, et donc avaient décidé de passer la main en se disant « après tout, que le gouvernement suivant sera peut-être plus à même de gérer correctement cette guerre qui s'enlisait et cette absence de reconnaissance du pouvoir de la Douma, du pouvoir parlementaire, dont tout le monde était un petit peu fatigué.
Alors il y a un inconnu, vous le disiez, une inconnue, ce sont ces geôliers. On connaît ces geôliers. En revanche, on n'a pas l'impression. Oui, il y a une absence de liberté, mais ils vivent ils semblent vivre très bien. Même, je crois que c'est à la Pâque de 1918. Ils mangent à leur faim, ils peuvent recevoir des courriers, ils peuvent envoyer des courriers.
Alors, il faut distinguer plusieurs périodes. De la révolution de février jusqu'à fin juillet 1917, ils sont effectivement à Tsarskoye Selo, dans leur palais, avec des gardes qui sont parfois des gardes qu'ils connaissent depuis de longues années, qui étaient dans des régiments. Donc, ils sont plutôt bien traités. Simplement, il y a une sorte d'inconnu. Ils ne savent pas très bien quel sort va leur être réservé. Ils voient très souvent Alexandre Kerensky, qui est le ministre de la Justice, puis le président du gouvernement provisoire, avec qui ils s'entendent plutôt bien, qui envisagent de les faire s'exiler en Angleterre ou ailleurs. Donc, pour l'instant, ils sont dans une situation relativement tranquille. Début août 1917, Kerensky les fait envoyer en Sibérie, à Tobolsk. Pourquoi là-bas ? Parce que Kerensky, les bolcheviks n'ont pas encore pris le pouvoir, sent que ça chauffe beaucoup à Petrograd, qu'il peut se passer des événements. Il y a eu des émeutes en juillet, justement, encadrées par les bolcheviks. Et Kerensky, qui s'est vraiment attaché à la famille impériale.
Il est très présent, en fait, dans le journal. C'est peut-être le personnage le plus présent.
Absolument. Alors que c'est quand même lui qui a fait la révolution de février. Je vous rappelle qu'en février, il n'y a aucun leader bolchevique à Petrograd. Trotsky est à New York, Staline est en Sibérie et Lénine est en Suisse. Donc c'est vraiment Kerensky qui fait la révolution de février, qui renverse le tsar, mais qui a une forme de respect pour lui et qui fait vraiment tout pour qu'il soit préservé des excès possibles que la révolution pourrait générer si elle dérape. Donc on l'envoie à Tobolsk, et à Tobolsk il arrive dans une ville qui est assez paisible, qui n'est pas très révolutionnaire. Ils sont installés dans une maison. Il est parti en train avec des centaines de bagages, avec des domestiques, avec beaucoup d'argent, avec des lingots d'or, et il est installé comme ça avec une partie de sa domesticité, et cette situation perdure jusqu'en octobre, révolution. Les lendemains de la révolution russe qui a réussi à la révolution bolchevique, du coup d'état bolchevique de Petrograd, là il y a une petite tension. On commence à diviser par deux le nombre de ses domestiques. On commence à lui demander de payer sa nourriture. Sinon, il en a moins. Il commence à avoir des petites vexations sur la famille. Donc la situation quand même commence à se tendre à partir de la fin de l'année 17. Et puis, en avril 1918, il est décidé de les envoyer à Ekaterinbourg, là qui est une ville industrielle, une ville rouge, une ville tenue par un soviet très violent. Et là, on comprend que la situation va vraiment empirer. Et lorsqu'ils arrivent dans cette fameuse maison Ipatiev, il y a une palissade autour de la maison, soi-disant pour les protéger des excès de la population. Ils n'ont quasiment plus le droit de sortir de la maison pour aller à l'église, qu'ils pouvaient faire à Tobolsk. On voit quand même un resserrement des boulons qui va aller progressivement jusqu'à fin juin 1917, où là on va carrément changer la garde, qui est devenue de plus en plus insolente, de plus en plus violente, de plus en plus brutale. Des vexations se multiplient. Quand les filles du tsar vont aux toilettes, les gardes laissent la porte ouverte pour les regarder. Enfin, il y a vraiment on sent que la situation est devenue de plus en plus pénible pour eux. Ils n'ont pas toujours de quoi se nourrir, ils n'ont pas toujours de quoi se chauffer. Et puis, fin juin 1918, là, il y a un changement de garde. Les gardes avec qui ils avaient fini par entretenir des relations, même si c'était des bolcheviks, c'était des ouvriers de la région, donc plutôt des rouges, mais avec qui ils avaient fini par discuter, eh bien là, changement de garde, arrive ce qu'ils pensent être des Lettons, qui sont en fait des Hongrois, ouais. Et en fait, sont des membres de la Tchéka. Et là, nous, lecteurs, on comprend que si on met des tchéquistes dans la maison, c'est pas pour faire une surveillance comme d'habitude. Tchéquistes, c'est des assassins. Tchéquistes sont là pour tuer les symboles de l'ancien régime. Aujourd'hui, ça va être la famille impériale. Demain, ça sera les princes, les aristocrates. Je rappelle que tous les membres de la famille Romanov qui sont restés en Russie en 1917-1918 ont été exécutés. Tous. Les seuls qui ont pu...
Ceux
qui ont survécu sont ceux qui ont pu s'échapper. Mmh. Effectivement, la sœur de Nicolas II, sa mère, qui ont réussi à partir à l'étranger. Mais les autres, tous ont été exécutés, et notamment par les tchéquistes, et ensuite ce sera les aristocrates, et puis ce sera les bourgeois, et puis ce sera les paysans riches, les koulaks. On sent bien le processus de terreur mis en place, et on peut le lire à travers effectivement ce journal. On voit la violence crescendo par ces petits gestes de plus en plus désagréables à l'encontre de la famille.
Mmh. Alors vous expliquez que justement après la première révolution, on pense à un procès. Or, après la deuxième révolution, la révolution bolchevique, là, pour le coup, on ne parle plus vraiment de procès.
Si, on continue à en parler, parce que je pense que Lénine, notamment, n'est pas contre l'idée. Trotsky, encore moins, parce que Trotsky se rêvait en procureur, et Trotsky, qui est vraiment celui qui est le plus collé à la Révolution française, à l'image de la Révolution française, à l'histoire de la Révolution française, rêve d'un procès comme celui de Louis XVI, et ça serait lui le procureur. Et il a même l'idée de que ce soit diffusé dans la radio qui commence à naître, et que dans les petits villages, dans les petites villes, on lise le compte-rendu du procès au fur et à mesure des propos des uns et des autres, et notamment de ceux, évidemment, de Trotsky. Et puis finalement, Lénine et Sverdlov, décident qu'il n'y aura pas de procès. Pourquoi ? Sans doute parce que les Blancs commencent à approcher de la ville d'Ekaterinbourg fin juin 1918, et que Lénine se dit « Oh là là, si les Blancs s'emparent de la ville, qui libèrent Nicolas II, ça en fera à nouveau un chef de file de la contre-révolution, donc il faut l'exécuter, on n'a pas le temps de faire un procès. » Je pense que l'idée est abandonnée en avril, justement, quand on décide de les envoyer de Tobolsk à Ekaterinbourg. Il y a encore l'idée du procès à ce moment-là, puisque c'est une scène assez curieuse, parce que le garde chargé de la famille impériale décide de ne pas les envoyer à Ekaterinbourg, alors que le soviet de Ekaterinbourg les a demandés. Et il se défend en disant « Mais non, on m'a demandé de les envoyer à Moscou pour un procès. » Et en fait, comme le train part de plus en plus à l'est, et que Ekaterinbourg était à l'ouest de Tobolsk, on se dit « Oh là là, il y a quelque chose de curieux. Si ça se trouve, il est en train d'envoyer la famille impériale à l'est, peut-être à Vladivostok, peut-être au Japon, peut-être chez les Blancs. » Donc c'est là où on intervient pour bien les emmener à Ekaterinbourg. Et là, je pense que l'idée du procès est abandonnée à ce moment-là.
Oui. Et vous mentionnez le fait que au départ, il était prévu de tuer le tsar, son fils, mais absolument pas les femmes.
Oui, alors on voit bien que l'événement a eu lieu dans une forme d'improvisation, que effectivement c'est le soviet d'Ekaterinbourg qui décide de l'exécuter, sans doute. Non pas sur recommandation de Lénine, mais depuis le début, ils veulent exécuter la famille. On ne sait pas très bien dans quelles conditions, mais il faut tuer le tsar. Et puis, à partir du moment où Lénine n'interdit plus qu'on les exécute, ils considèrent qu'ils ont le droit de les exécuter. Et c'est compliqué quand même de monter une opération, parce que ils sont pas sûrs qu'il faille que tout le monde soit au courant de cette exécution, que si leurs corps sont préservés, ça peut devenir un lieu de pèlerinage. Les Blancs ne sont pas très loin. Donc on sent dans l'exécution de la famille une forme d'improvisation. Ils sont tous là, on va tous les prendre, on les met dans la cave et on tire dans le tas. C'est exactement ce qui va se passer. Revolver et pistolet, on va même les achever à coups de baïonnette, parce que notamment les archiduchesses avaient pris des coussins dans lesquels ils avaient mis leurs bijoux pour se protéger. Donc, pas pour se protéger d'ailleurs, mais qui du coup les ont protégés de certaines balles. Donc il a fallu en achever certains, et parfois à la baïonnette, y compris le petit chien du Tsarevitch. Donc on voit bien que il y a une forme de... À cette époque, on est au début de la guerre civile, donc une forme de chaos, et que les exécutants, les bourreaux, les tchéquistes qui sont là, eux, procès, famille, symbole, ils s'en fichent, ils sont là pour tuer, ils tuent. Ils tuent, ils massacrent dans un bain de sang, et on voit bien après la manière dont on va tenter de se débarrasser des corps, participe de cette impression d'improvisation totale, puisque ils vont être emmenés dans la nuit à une quinzaine de kilomètres dans un bois pour les jeter dans des puits de mine. Et puis le lendemain, on va retourner les chercher en disant finalement les puits de mine sont pas assez profonds, on va les découvrir, donc on va les emmener encore plus loin. Et mais en les emmenant plus loin, on va décider de les séparer pour pas qu'on les retrouve. Donc tout ça brûler à l'acide sulfurique dans les visages pour pas qu'on les reconnaisse, brûler totalement, découper parfois, les corps ont été découpés parce qu'on a retrouvé des morceaux d'eau distincts. Donc tout ça est fait, emporté dans des camions qui s'embourbent dans les marécages. On voit très bien que on sait pas très bien quoi faire. Comme si, les bourreaux se rendaient compte de la portée de leur geste après l'avoir commis. On a quand même exécuté la famille impériale Romanov, il faut pas qu'on nous retrouve. Ou alors, au contraire, est-ce qu'il faut qu'on s'en vante auprès du nouveau pouvoir? Mais si le nouveau pouvoir ne dure pas, tout ça est très chaotique, encore une fois.
Alors, c'est ce que présente notamment le livre de Nicolas Ross, « Ils ont tué le tsar », les bourreaux racontent, qui est un peu le miroir, en quelque sorte. Vous voyez les choses côté victime, et Nicolas Ross les voit du côté des bourreaux. Je, je voudrais simplement un extrait. 5 mai de 1918, journée grise et pluvieuse. Dans les pièces, il ne pénètre qu'un jour blafard et nous nous ennuyons à mourir. En jouant avec Marie, j'ai eu un véritable tric-trac, ce qui est aussi rare que 4 Bessig. Bessig étant un jeu spécifique. L'après-midi, nous nous sommes promenés une demi-heure. Nous avons attendu le dîner de 8 à 9 heures. L'électricité fonctionne de nouveau dans la salle à manger. Dans le salon, pas encore. Alors, quand vous lisez « En jouant avec Marie, j'ai eu un véritable tric-trac », ce qui est aussi rare que 4 Bessig, mais on se dit « Mais dans quel monde est-il ?» Il y a une autre phrase bien avant, en 1917, 5 juillet, « Le germe de tout le mal est à Pétrograd et non dans toute la Russie. » Il est complètement déconnecté de ce qu'il se passe.
Oui, il est déconnecté parce qu'encore une fois, sa conception du pouvoir, c'est il est là pour incarner le pouvoir à travers les âges et il ne se mêle pas des affaires courantes, des affaires politiques, au point d'en être complètement non pas indifférent. La chose militaire l'intéresse,
mais il en parle peu dans ses pages, dans ses dernières pages.
Il en parle peu parce qu'elle l'intéresse presque d'un point de vue théorique. Et d'ailleurs, lorsqu'il a pris la tête de l'armée, ce qui était à mon avis sa grande erreur de la guerre de 14-18, c'est d'aller à Moguilev, donc sur le front, au grand quartier général de l'armée russe, et de laisser le pouvoir politique de fait à Alexandra, donc à Rasputin, à Petrograd. On a bien vu qu'il n'a pas fait des miracles à la tête de l'armée russe, parce que chef de guerre, ça ne s'improvise pas. On a connu des grands hommes politiques qui sont devenus des grands chefs de guerre, mais ça n'est pas une loi systématique. Et effectivement, cette déconnexion, mais vous l'avez très bien dit tout à l'heure, cette idée de bourgeois, en fait, effectivement, c'est un roi bourgeois, c'est un roi presque qui aurait pu être plutôt Louis-Philippe que Louis XVI. C'est-à-dire, on sent qu'il aurait été un parfait monarque constitutionnel, incarner le pouvoir, mais sans se mêler des affaires politiques. Et dans son journal, on voit... Vous l'avez dit, qu'il joue, beaucoup, il lit beaucoup. On découvre qu'il a une passion pour les romans policiers,
très impressionnant,
pour Conan Doyle, pour Agatha Christie, pour les Gaston Leroux.
Il voit des films aussi.
Il voit des films. Il joue, il monte des petites pièces de théâtre avec la famille pour s'occuper. On voit bien que c'est l'ennui bourgeois, comme vous le dites, et donc les journées sont longues. On les occupe avec des activités bourgeoises, qui est effectivement faire un petit peu de théâtre en famille, des lectures à voix haute. Il enseigne l'histoire et la géographie de Tsarevitch, pour Alexandra lui enseigne l'allemand et la religion. On s'occupe comme on peut, dans une forme de désœuvrement qui n'a pas été choisi, mais qui semble finalement non pas le satisfaire, mais le contenter sans qu'il y éprouve vraiment de l'aigreur ou de l'inquiétude. C'est aussi ça, cette inquiétude, elle ne vient que dans les dernières semaines du journal. Avant, on a l'impression que là aussi, ça montre un petit peu sa déconnexion. Il n'a pas l'air très inquiet, il est agacé, il est même parfois un petit peu en colère contre l'attitude de certains gardes, les petites vexations, les humiliations de ne pas pouvoir aller à la liturgie, mais on sent pas d'angoisse, et donc on sent pas de conscience de ce qui se passe dans son pays, c'est-à-dire que le pouvoir a échu aux bolcheviks qui vont faire de ce pays le premier état totalitaire dans l'histoire de l'humanité. Donc lui, il n'en a absolument pas effectivement conscience parce que, encore une fois, il n'a pas été élevé, il n'a pas conscience de ce qu'est une idéologie. L'idéologie est quelque chose qui lui est étranger, même si effectivement, de temps en temps, on sent qu'il a une petite pensée pour ce qui est arrivé à Louis XVI et que ça n'est pas totalement exclu qu'il ait le même destin, mais il balaye assez vite cette hypothèse parce qu'il a l'impression de ne pas avoir fait de mal.
Donc naïf à la fois sur la situation réelle du pays, mais aussi...
Et pas informé aussi.
Et sur son propre sort.
Et sur son propre sort. Et puis voilà, il n'est pas du tout informé de ce qui se passe à l'extérieur. Le coup d'État de bolchevique est évoqué avec des mots, avec un euphémisme. Il y a eu des émeutes à Petrograd. Il n'a pas du tout compris qu'il y a eu un basculement, il y a eu une révolution réellement, et pas seulement une révolution qui a changé un pouvoir pour un autre, qui a changé le système politique et qui a créé un système politique qui n'avait jamais existé jusqu'à ce jour. Donc il a pas du tout. S'il avait lu Lénine ou Trotsky avant 1914, il aurait vu la violence dont des mots et peut-être des actes dont sont capables les bolcheviks. Mais ça non plus, il n'avait pas lu. Donc, et autour de lui, Rasputin, qui est une émanation de la vieille Russie, était incapable de l'éclairer aussi sur les motivations de certains de ses adversaires.
C'est peut-être là la différence essentielle avec Louis XVI, c'est le rythme des événements où bon, Louis XVI, il y a eu la Constituante, il y a eu, il était sur Paris et il était au cœur de la Révolution. Oui. Or là, on a un personnage qui est immédiatement mis sur la touche.
Oui, et puis Louis XVI, il est monarque constitutionnel pendant plusieurs mois, donc il reste au pouvoir avec les révolutionnaires, ceux qui ont renversé, qui ont pris la Bastille en 89, alors que la révolution de février commence le 8 mars, le 15 mars 1917, le 15 mars Nicolas II abdique. Donc il est tout de suite hors du jeu politique, contrairement à Louis XVI. Mais effectivement, il y a un cousinage dans leur destin, évidemment, dans leur destin funeste, mais aussi dans leur une forme de déconnexion, même si Louis XVI effectivement a joué le jeu de la révolution pendant quelques mois. Louis XVI a quand même tenté quelque chose. Varennes, même si c'est un acte qu'on peut déplorer, c'est tenter quelque chose. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a conscience que son destin est sans doute très noir, donc il s'enfuit. Nicolas II, à aucun moment, on sent l'impression qu'il va vouloir s'enfuir. De temps en temps, il reçoit des courriers clandestins à Maison Ipatiev, de blancs. Bon, bien, ce sont des faux grossiers faits par les révolutionnaires, peut-être pour trouver un prétexte pour l'abattre. Il y répond à peine, alors que lui, il n'a pas du tout l'impression que ce sont des faux, mais on sent pas une volonté de sortir absolument de ce pétrin dans lequel il se trouve, parce qu'il est avec sa famille, ils sont regroupés, et que finalement, c'est un moindre mal que d'être regroupé en famille, plutôt que d'être dispersé sans avoir des nouvelles des siens. Au moins, on s'est retrouvé sur la cellule, sur la communauté de base qui est la famille, et on a presque l'impression, encore une fois, qu'il y a une forme de satisfaction à vivre des moments que lorsqu'il ne pouvait pas vivre lorsqu'il était au pouvoir.
Jean-Christophe Buisson, nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. On a voulu renouer en quelque sorte l'histoire en 1990. D'abord, il y a eu des analyses qui ont été faites, des recherches qui ont amené à trouver ces fameux os, donc dans le puits de mine. Et puis, en 1998, il y a 20 ans, très exactement, le 17 juillet, pour le coup, le pouvoir russe a souhaité, alors non pas en grande pompe, mais avec une vraie volonté.
Une certaine solennité quand même, solennité, parce que Boris Yeltsin était présent, finalement était venu assister quand même à l'inhumation officielle en forteresse Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg de la famille impériale, en tout cas des cinq membres dont on avait la certitude qu'il s'agit de ceux de Nicolas, Alexandra et leurs enfants, et puis les deux autres ont été retrouvés quelques mois plus tard et certifiés comme étant les restes. Donc toute la famille impériale maintenant repose à Saint-Pétersbourg. Effectivement, Boris Yeltsin avait fait les choses en grand, même si l'Église orthodoxe, elle, avait refusé de s'associer à ce moment-là de trop près à l'événement, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et aujourd'hui encore, il y a quelques semaines, il y a une grande procession de nuit, à l'heure même où la famille impériale a été exécutée, entre la maison Ipatiev et le fameux bois dans lequel la plupart des membres de la famille ont été jetés dans un premier temps dans ce puits de mine. 100 000 personnes quand même, 100 000 personnes de nuit au flambeau ont rejoint ce lieu qui marque le symbole de ce massacre de la famille impériale et de la fin d'une histoire multiséculaire, pour entrer dans une nouvelle qui était une nuit qui s'est achevée donc en 1991 en Russie, et dont Vladimir Poutine est un petit peu l'héritier, qu'il le veuille ou non, même s'il garde ses distances et avec les révolutionnaires et avec les Romanov. On sent bien que les ors du pouvoir, son statut, même si son origine de KGBiste le signal comme étant plutôt proche des révolutionnaires de 1917, eh bien il a compris qu'il fallait réconcilier d'une certaine manière les Russes avec eux-mêmes, les blancs et les rouges, qu'il n'y avait plus de blancs et rouges aujourd'hui, il y avait juste des Russes qui sont les héritiers, chacun d'une histoire personnelle, familiale ou politique antagoniste, mais que le sujet n'était plus là. Le sujet, c'était d'être ensemble aujourd'hui, dans un seul et même pays, réconcilié, si tant est qu'on puisse parvenir à la réconciliation totale, compte tenu des millions de morts qui sont à déplorer dans cette histoire.
Pour nos auditeurs, nous enregistrons cette émission quelques semaines après le centenaire donc de 2018. Peut-être une dernière question. Vous êtes allé à Ekaterinbourg?
Non.
Non. La maison Ipatiev.
Alors c'est devenu une église. Elle a été rasée d'ailleurs sur ordre de Yeltsin, je crois. C'est ce qui explique aussi sa repentance, son esprit de repentance lorsqu'il a fait les choses en grand pour la cérémonie dont on parlait tout à l'heure. C'est que la maison a été rasée, la maison Ipatiev, et sans doute à l'époque pour pas que ça devienne un lieu de pèlerinage. Moyennant quoi, depuis, c'est devenu, on a bâti une église, une grande église sur le lieu même, qui est devenu par définition un lieu de pèlerinage à Ekaterinbourg. Mais le vrai lieu symbolique aujourd'hui, c'est la fosse Ganina, c'est-à-dire là où les corps ont été jetés une première fois à 15 kilomètres de Ekaterinbourg. C'est vraiment là où il y a un monastère aujourd'hui, où on peut venir se recueillir sur ce lieu, même si, encore une fois, les eaux maintenant sont à la forteresse Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Jean-Christophe Buisson, journal intime de Nicolas II, décembre 1916, juillet 1918, donc présenté et annoté par vous. Et je mentionne également le livre Nicolas Ross, donc Ils ont tué le tsar, les bourreaux racontent, un livre paru aux éditions des Sirtes. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Storia Voce.